Bonjour, ici Bethléem Ikan, accompagnée de Brian Saint-Louis aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Troisième Planète où l'on vous parle d'environnement et de société sur CKIA 88.3. On a vécu en ce moment des météos un peu extrêmes, peut-être un avant-goût de ce que va être l'avenir des changements climatiques. Ça n'inquiète pas que nous, mais aussi on a eu le discours d'Obama récemment qui est assez alarmant sur l'urgence de la situation, et ses préoccupations sont aussi reprises par la ministre des Ressources Naturelles, Madame Ouellet. Alors, que fait-on au Québec? En juin l'année dernière, le gouvernement a élaboré un plan d'action. Un plan d'action sur les changements climatiques qui se dévoile en deux volets. Un qui est comment nous allons nous adapter à ces changements climatiques d'une part, et puis d'une autre part, les mesures de réduction. Et parmi ces mesures de réduction, on a la mise en place d'un marché carbone. Alors, c'est quoi un marché carbone? Justement, nous avons avec nous Monsieur Jean Nollet, président fondateur d'Éco-Ressources. Bonjour Jean.
Bonjour Bethléem.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu es le fondateur d'Éco-Ressources, donc nous disons un peu plus sur ce qu'est Éco-Ressources.
Alors, Éco-Ressources, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine de la consultation en économie de l'environnement et des ressources naturelles. Alors, au total, on est une trentaine de personnes qui sont localisées dans différents endroits du globe. On est principalement au Québec, puisqu'on est issu du Québec. Donc, on a un bureau à Québec, un bureau à Montréal. Mais on a également un bureau à Lima, au Pérou. Et puis, des antennes au Venezuela, au Nicaragua. Et, notamment, en Europe, du côté de Bruxelles et de Lyon. Donc, une trentaine de personnes spécialisées en économie de l'environnement et des ressources naturelles, dont à peu près la moitié est spécialisée soit en adaptation au changement climatique, soit sur les marchés du carbone.
D'accord. Justement, ce plan sur les changements climatiques, c'est quoi son objectif? Donner un peu de chiffres, un peu de... C'est quoi le...
Quand on pense au plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, alors sous le gouvernement Charest, le gouvernement avait pris un objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec de 20% sous le niveau de 1990, et ce d'ici 2020. Avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement du Parti québécois, l'objectif a été augmenté de sorte qu'on a maintenant comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% sous le niveau de 1990 pour 2020. Mais en parallèle, comme les changements climatiques se produisent indépendamment des actions qu'on est en train de prendre, parce que c'est un phénomène qui est amorcé depuis un certain temps, les réductions de gaz à effet de serre visent à réduire autant que possible le changement climatique, mais comme il y en a qui se produisent de toute façon, il est nécessaire de penser à s'adapter aux changements climatiques qui vont se produire. Et ça implique toutes sortes de choses. Ça implique des choses du côté agricole, par exemple, puisque notamment on va voir les zones d'ensoleillement se décaler vers le nord avec des effets positifs pour les cultures, mais en même temps des effets négatifs avec les insectes qui vont arriver. Il y a des impacts sur les barrages d'Hydro-Québec, par exemple, avec la pluviométrie qui va changer. Il y a des impacts sur les...
Pardon? Le tourisme?
Le tourisme, évidemment, par exemple. Donc, par exemple, sur le ski. Dépendamment de ce qui se passe avec le climat, on sait que dans un contexte qui se réchauffe, on aura des impacts sur nos centres de ski, mais en même temps, les centres de ski américains vont être davantage affectés. Donc, ça pourrait avoir un impact positif sur nos centres de ski au Québec. Alors, toutes sortes de choses comme celles-là, sur les infrastructures, notamment auxquelles il faut penser. Vous avez eu connaissance, au cours des dernières années, de grandes... d'épisodes de pluie intenses qui ont eu des impacts sur les infrastructures, des débordements, et ainsi de suite. Donc, maintenant, il faut réfléchir à ces questions-là dans une optique d'adaptation au changement climatique.
Mais alors, on ne va pas baisser les bras en disant « on va juste s'adapter, on va quand même essayer de lutter quand même un peu ».
Exactement, et c'est pour ça qu'au Québec, on se donne des objectifs ambitieux avec le moins 25% que je mentionnais.
Et pour justement que ce plan réussisse, qu'on arrive à réduire nos gaz à effet de serre, Tu as dit qu'il y a différents types d'actions, donc d'adaptation et de protection finalement, mm-hmm. mais aussi de réduction, qui s'adressent à qui finalement?
Alors, les actions concrètement impliquent, devraient impliquer tout le monde dans la société, d'accord. directement ou indirectement. Concrètement, les émissions de gaz à effet de serre sont très liées à notre consommation d'hydrocarbures, de pétrole, mm-hmm. d'essence. Donc, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre au Québec, on doit procéder beaucoup en diminuant notre consommation d'hydrocarbures. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Alors, ça implique concrètement d'utiliser des plus petites voitures, davantage de transports en commun, de passer du pétrole au gaz naturel ou à l'hydroélectricité, et ainsi de suite. Alors, toutes les actions qui permettent de réduire notre usage des hydrocarbures vont avoir un impact positif sur nos émissions de gaz à effet de serre.
Alors, dans ce plan, le marché carbone a une place très importante. Pourquoi est-ce qu'elle tient une place aussi importante, finalement?
Ben, alors, dans le fond, quand on pense aux diverses options qui s'offrent au gouvernement pour inciter les citoyens, les entreprises à modifier leur comportement, ben, il y en a quelques-unes qui viennent à l'esprit. On peut sensibiliser les gens, on peut mettre en œuvre des réglementations, on peut mettre des taxes, on peut donner des subventions et ainsi de suite. Par contre, il y a une chose qui vient normalement à l'esprit des gens spontanément quand on pense d'actions importantes, radicales, c'est de mettre en œuvre des réglementations. Ouais. Alors, l'idée avec un système de plafonnement et d'échange ou avec un marché du carbone, c'est de dire, OK, on met en place une réglementation qui va imposer des obligations de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais une fois qu'on a mis en œuvre ces obligations-là par une réglementation, on va permettre aux individus, aux entreprises, de s'échanger une partie de leur fardeau via un marché du carbone. Autrement dit, on va faire en sorte que les entreprises ou les individus pour lesquels c'est plus facile de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pourront faire davantage que ce qui leur a été fixé par réglementation comme objectif et vendre ainsi des réductions de gaz à effet de serre à des entreprises ou des individus pour lesquels c'est très difficile de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et dans le fond, le marché fait en sorte que les réductions de gaz à effet de serre vont se faire là où ça coûte le moins cher. Donc, on va atteindre notre objectif, mais en se facilitant l'atteinte de l'objectif, en permettant des échanges, et on va réduire là où ça coûte le moins cher et de ce fait libérer des ressources pour d'autres priorités dans notre société.
En termes de fonctionnement, finalement, on a une cagnotte commune.
Oui.
On a un objectif commun. Et puis, on pioche dedans selon les besoins.
Et les forces.
Et les forces. Comment ça fonctionne dans les grandes lignes? Est-ce que, c'est-à-dire au début de l'année, on donne un certain nombre de points, en quelque sorte, et on a le droit de les dépenser ou pas?
Ben, c'est intéressant. Alors, il y a certaines particularités ici du système qui est prévu au Québec avec la Californie, qui est basé sur l'idée que en mettant en œuvre les réglementations au Québec, on veut autant que possible réduire l'impact de la réglementation sur la compétitivité de l'économie québécoise. Et la façon de faire qu'on a imaginée, c'était de dire, dans le fond, on limitera pas les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. On va dire aux entreprises qu'elles peuvent émettre individuellement autant que nécessaire pour la croissance de leurs activités, tant et aussi longtemps qu'elles sont en mesure, en bout de la période de conformité, qui est de 2 ans au départ et 3 ans ensuite, tant et aussi longtemps qu'ils sont en mesure de remettre au gouvernement des droits d'émission qui correspondent à leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les entreprises se voient attribuer un certain nombre de droits d'émission qu'elles pourront utiliser. Elles pourront en acheter, elles pourront en vendre, elles pourront les utiliser pour compenser ou pour couvrir les émissions qu'elles auront émises au cours de la période de conformité. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est comme si au départ du jeu, le gouvernement remettait des billes à chacun des joueurs en leur disant utilisez bon escient et on a confiance qu'en procédant de cette façon-là, on va provoquer un usage efficace de nos ressources.
Donc finalement, à la fin de la période où ils doivent remettre leurs leurs droits, il y a deux situations. Soit ils en ont pas assez, soit ils en ont trop. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire finalement qu'ils en ont trop ou pas assez?
Alors, ça voudra simplement dire que certaines entreprises disposent de moyens chez elles pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre davantage que d'autres entreprises. Et c'est ce qui va distinguer les deux types d'entreprises, celles qui vont être en surplus et celles qui vont être en manque. Et à ce moment-là, elles pourront échanger entre elles pour équilibrer les choses. Ouais.
Donc, celles qui sont en surplus, en fait, ça veut dire qu'elles ont réussi à réduire plus que
d'autres entreprises,
effectivement. Mm-hmm. Et puis du coup, elles peuvent revendre à celles qui sont en surplus, on va dire, qui ont besoin d'acheter des crédits.
Exactement. Et c'est le principe de base derrière le marché du carbone, c'est que on veut faire en sorte que les entrepreneurs se questionnent sur leur capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et on le fait en leur octroyant, si on veut, une carotte. Parce que s'ils sont capables de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de façon substantielle, ils auront des billes, des droits d'émission excédentaires qu'ils pourront vendre sur le marché. Et ça deviendra, pour ces entreprises-là, rentable de réduire plus qu'attendu leurs émissions de gaz à effet de serre.
Et comme tu disais, l'avantage du marché, c'est que finalement, le coût d'une réduction varie aussi, c'est-à-dire qu'un entrepreneur peut se dire il faut que je mette en place telle et telle action, et puis se rend compte que finalement le coût pour mettre en place cette action, faire une modification d'installation, etc., peut lui coûter cher, alors que finalement il peut aller la faire chez le voisin où ça lui coûtera beaucoup moins cher.
Exactement, et comme société, à ce moment-là, on gagne parce que les réductions se font là où ça coûte le moins cher, et les deux entreprises, suite à la mise en œuvre du marché, sont plus compétitives sur l'échiquier mondial pour tout en ayant atteint leurs objectifs.
Alors, pour le marché au Québec, ces échanges, ils auront lieu qu'entre entreprises au Québec, on est d'accord? Ça ne sera pas avec d'autres pays?
En fait, le système est québécois, mais il est conçu en parallèle avec le système californien. Et les deux juridictions, la province du Québec et l'État de la Californie, se sont entendus pour lier leurs marchés et reconnaître mutuellement leurs droits d'émission. De sorte que c'est possible pour une entreprise québécoise d'acheter des droits d'émission d'entreprises californiennes et inversement. Ce sera possible pour une entreprise californienne d'acheter des droits d'émission d'une entreprise québécoise. Et de cette façon-là, on augmente le bassin, la profondeur du marché, on augmente les possibilités d'échange et donc probablement les gains potentiels associés à l'existence du marché, donc des gains d'efficacité en termes d'atteinte d'objectifs environnementaux.
Bien. On va se faire une petite pause avec le groupe Alabama Shakes. C'est parti. De retour pour parler du marché carbone avec Jean Noëlet dans l'émission Troisième Planète sur Sekaya. On a parlé donc de ces émetteurs, ces entreprises, mais finalement ces entreprises, c'est qui? On s'adresse à pas toutes les entreprises au Québec, là, j'espère.
Non, effectivement. En fait, ce qu'on vise avec la réglementation, ce sont les entreprises, en fait, ce sont les établissements qui émettent plus de 25 000 tonnes. Donc, les entreprises qui possèdent des usines émettant plus de 25 000 tonnes par année. Et quand je dis des tonnes équivalent CO2. Mm. Donc, ces entreprises-là se situent dans divers secteurs industriels. On pense notamment au secteur des pâtes du papier, aux cimenteries, aux raffineries. Principalement ces secteurs d'activité-là. Et bon, il y aurait dans le secteur de la chaux, de l'acier, il y a d'autres entreprises également qui sont les alumineries qui émettent plus de 25 000 tonnes par année.
D'accord. Tu parlais des hydrocarbures. Mm-hmm. Dans ce que tu as cité, tu n'as pas cité justement les pétroliers ou les...
Ben, il y a une particularité de ce côté-là, effectivement, c'est que dans la réglementation, on prévoit dans un premier temps, pour les deux premières années, viser, donc en 2013 et 2014, viser les manufacturiers, donc ceux qui ont des entreprises qui émettent plus de 25 000 tonnes équivalent CO2, comme je viens de le mentionner. Par contre, comme une bonne portion des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du secteur du transport et du secteur résidentiel, commercial et institutionnel, pour le chauffage notamment, eh bien, on a prévu que ce secteur-là d'activité, le transport résidentiel, commercial et institutionnel, allait être ciblé par la réglementation à partir de 2015. Mais là, je ne sais pas si vous réalisez, mais quand on parle du transport et des résidentiels, commercial et institutionnel, on parle finalement de tous les Québécois. Donc, de 7-8 millions d'usagers pour lesquels il faut espérer des changements de comportement. Comment faire en sorte que ces comportements changent? Eh bien, ce ne sera certainement pas en imposant à chacun d'entre eux un inventaire annuel, puis en permettant des échanges entre eux, ça deviendrait d'une lourdeur incroyable à suivre. Donc, ce qu'on a choisi de faire dans la réglementation québécoise et californienne, il faut le mentionner, c'est de dire on va plutôt cibler les entreprises qui importent et distribuent des hydrocarbures à l'ensemble des Québécois.
D'accord. Donc finalement, c'est à l'entrée du pays qu'on agit.
D'accord. Et ce qu'on fait, c'est qu'on impose les obligations de couvrir les émissions à ces entreprises-là qui importent et qui distribuent, même si elles-mêmes n'émettent pas de gaz à effet de serre. On les rend responsables, donc, des émissions de gaz à effet de serre émises à la combustion du produit qu'elles distribuent.
Alors,
c'est la façon de procéder.
Ça va se ressentir sur les prix pour le consommateur?
Alors, évidemment, les entreprises vont devoir, ces entreprises-là qui sont des importatrices et des distributrices de ces hydrocarbures, vont devoir se procurer sur le marché via les ventes aux enchères organisées par le gouvernement ou directement auprès d'entreprises qui ont reçu des droits d'émission gratuitement. Ils devront donc obtenir des droits d'émission sur le marché. Et ces droits-là, vont avoir une certaine valeur. Ça va faire un coût supplémentaire pour les entreprises qu'elles vont refiler aux consommateurs. Et l'espoir du gouvernement, dans son plan de lutte au changement climatique, c'est que cette augmentation des prix qui va engendrer, en fait, que cette augmentation des prix-là engendre des modifications de comportement, donc des réductions de consommation.
Mais il existe déjà une taxe sur les hydrocarbures, non?
Oui, il y a une redevance sur les hydrocarbures qui existe actuellement, qui est autour de 2,5 ou 3 sous le litre, qui permet de lever 200 millions de dollars par année au gouvernement.
D'accord.
Alors, on pense que l'obligation pour les entreprises de couvrir les émissions associées aux hydrocarbures va générer des revenus passablement plus importants. On parle, sur la période 2013-2020, de 2,7 milliards de dollars qui seraient obtenus via la vente aux enchères de droits d'émission qui seraient principalement acquis par les entreprises qui importent et distribuent des hydrocarbures.
Et donc, finalement, ces revenus vont servir à financer...
Notamment des activités qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le transport collectif, comme de la sensibilisation, mais aussi de l'adaptation au changement climatique, donc peut-être des adaptations de certaines infrastructures dans certains contextes.
En effet, j'ai vu que dans le budget prévu, il y avait une grosse partie qui était dédiée au transport collectif et actif.
Si je ne me trompe pas, c'est plus de 40% du 2,7 milliards qui va se retrouver en transport collectif.
Alors, on a parlé de répercussions sur les prix, mais c'est aussi des opportunités de nouvelles activités ou de business. Parce qu'on a des porteurs de projets qui sont finalement des porteurs de projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et qui créent une activité finalement qui génère de l'argent.
Oui, tout à fait. Alors... on a voulu, dans le cadre de ce plan de lutte au changement climatique, pas seulement user du bâton, mais user de la carotte, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est-à-dire que on veut que les entreprises soient incitées à réfléchir à ce qu'elles peuvent faire chez elles pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on a pensé que dans les secteurs non couverts par la réglementation, il y aurait peut-être aussi du potentiel pour des réductions de gaz à effet de serre. Et quand on regarde ce que couvre la réglementation en couvre large. Elle couvre l'industrie de façon générale. Elle couvre également tout le secteur associé à la consommation des hydrocarbures. Reste quand même le secteur agricole. Reste quand même le secteur des lieux d'enfouissement sanitaire. Reste la forêt qui séquestre du carbone. Et on a prévu dans le cadre de ce plan d'action, dans le cadre de la mise en œuvre du système de plafonnement et d'échange au Québec, que ces secteurs d'activité qui ne sont pas couverts par la réglementation pourraient obtenir des droits d'émission. Enfin, on parle ici de crédit compensatoire, mais c'est une forme de droit d'émission pour des réductions de gaz à effet de serre, dans la mesure où elles seraient capables de faire la preuve qu'elles réduisent effectivement leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, on peut penser qu'il y aurait peut-être des projets réalisés dans le secteur agricole associés au captage du méthane des fossés lisiers, par exemple.
Ouais.
On peut penser qu'il y aura peut-être des projets reconnus de séquestration du carbone en forêt, par exemple. Peut-être une gestion différente des lieux d'enfouissement sanitaire pourrait-elle donner lieu également à des réductions de gaz à effet de serre qui vont être reconnues et donner droit à des crédits compensatoires.
Ouais. Donc, finalement, comment ça fonctionne, c'est on a une situation de départ où on a une quantité de gaz à effet de serre qui est émise. Il y a une action qui est mise en place et puis on a le scénario d'arrivée où finalement on a la réduction. Et c'est cette réduction qui donne droit à des crédits d'émission.
Bien, effectivement, c'est une précision intéressante à apporter. On a comme souci beaucoup de rigueur. Donc, on ne veut pas octroyer un crédit carbone pour une réduction qui ne serait pas une vraie réduction. Alors, toute la question est de savoir comment on fait pour déterminer s'il y a une réduction de gaz à effet de serre. Et cette réduction-là va devoir être mesurée en comparant un scénario de marche courante des affaires avec un scénario émission avec projet. Et je donne toujours un exemple très personnel de ce côté-là, et puis ça illustre bien les choses. Personnellement, je voyage en vélo, hiver comme été, pour mes déplacements en milieu urbain. Et de ce fait, j'émets pas de gaz à effet de serre. Est-ce que je peux obtenir un crédit compensatoire pour cette belle activité? La réponse est non. On peut pas obtenir des crédits compensatoires pour une activité comme celle-là qui est pourtant géniale parce que, dans mon cas, comme je le fais depuis l'université, je peux pas prétendre que j'ai modifié mon comportement et engendré une réduction de gaz à effet de serre. Alors, je donne l'exemple, par contre, de mon voisin qui, lui, utilise son Hummer pour se rendre au dépanneur. Mais si, lui, je le convainc d'abandonner son Hummer pour prendre le vélo comme moi, lui aura réduit ses émissions de gaz à effet de serre et pourrait obtenir des crédits compensatoires, des crédits carbone qu'il pourrait vendre sur le marché. Alors, c'est un exemple que je donne. Ça donnerait des quantités très petites. Donc, il faut appliquer le principe plus largement à des entreprises plus vastes. Mais l'idée de base, c'est pas de récompenser tous les bons comportements. C'est pas de remettre un trophée à toutes les entreprises ou les individus qui ont un comportement environnementalement louable. L'objectif, je le rappelle, c'est d'engendrer des modifications de comportement qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Alors, si on est capable de faire cette preuve-là, qu'on a mis en œuvre un projet qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, bien, on obtiendra des droits compensatoires.
Il y a eu la même expérience qui a été faite en Europe, du marché carbone, et qui se porte pas vraiment très bien. Les échos qu'on a. déjà, pourquoi et comment faire en sorte qu'au Québec, on fasse pas les mêmes erreurs, entre guillemets?
Bien, en fait, la raison pour laquelle on dit que ça a pas bien fonctionné en Europe, en fait, ça a très bien fonctionné. Les réductions de gaz à effet de serre sont au rendez-vous, et tellement que le prix de la tonne échangée est faible. Donc, la raison pour laquelle on parle d'un échec, c'est parce que le prix est bas. Mais si le prix est bas, c'est parce qu'il y a beaucoup de réductions de gaz à effet de serre qui ont été réalisées. L'enjeu, le problème dans le cas européen, c'est qu'il y a beaucoup des réductions de gaz à effet de serre qui ont eu lieu à cause de la crise économique. Donc, c'est pas réellement la politique de lutte au changement climatique qui a été efficace, mais la crise économique qui a eu son effet.
Il y a eu moins d'activités.
Il y a eu moins d'activités, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, ce qui s'est passé dans le cas européen, c'est qu'on a alloué des droits d'émission aux entreprises sur une base historique, sans prévoir la crise économique, de sorte que les entreprises n'ont pas eu besoin, autant qu'on l'aurait pensé, des droits d'émission.
Donc finalement, ce n'est pas un incitatif de réduction. Finalement, c'était déjà tout cuit.
Ben, ça a été un incitatif pendant plusieurs années jusqu'à ce que la crise entre en vigueur, jusqu'à ce que la crise arrive, parce que le marché existe depuis 2005 en Europe. Et la raison ou la grande différence avec le Québec, c'est qu'au Québec, on n'alloue pas aux entreprises des droits d'émission gratuitement sur une base historique.
D'accord.
En fait, au Québec, on alloue des droits d'émission, gratuitement, c'est vrai, mais sur la base de la production des entreprises, multiplié par un facteur d'intensité, de sorte qu'une entreprise au Québec qui a réduit sa production à cause de la crise économique ou pour une quelconque raison, va également recevoir moins de droits d'émission. De sorte que cette conjoncture-là qu'on a vue en Europe, où la baisse des émissions a fait en sorte que les droits d'émission se sont échangés à un plus faible prix, devrait vraiment pas se produire ni au Québec ni en Californie. En fait, on prévoit une augmentation importante des prix de la tonne de carbone dans le marché nord-américain au cours des prochaines années.
Alors, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que la Chine se lance aussi dans des projets de marché carbone. C'est des projets pilotes pour le moment, mais c'est un très grand émetteur, donc c'est un signe fort.
En effet, en Chine, on le sait, c'est le premier émetteur à l'échelle mondiale en termes de tonnes au niveau absolu. Donc, de voir que du côté chinois, où on semblait peu préoccupé jusqu'à dernièrement par les questions environnementales, parce qu'on était très préoccupé d'améliorer le niveau de vie de la population, et on constate que maintenant, on est confronté au fait que le niveau de bien-être de la population est lourdement affecté par les questions environnementales, par les impacts environnementaux. Donc, la Chine, maintenant, est davantage au diapason du reste de l'humanité, en voulant de son côté également faire sa part pour lutter contre les changements climatiques. Et ils ont choisi, comme l'Europe, comme le Québec, comme la Californie, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, d'autres pays, d'utiliser le marché du carbone parce que, là comme ailleurs, on croit que c'est une façon efficace d'engendrer des réductions de gaz à effet de serre au moindre coût possible.
Quelles sont les prochaines échéances? Est-ce qu'il y a déjà eu l'ouverture officielle du marché au Québec est faite?
En fait, les bases sont présentes pour que le marché existe au Québec. Il y a peu de transactions jusqu'à maintenant. Ça s'explique par la nouveauté de la chose, en bonne partie. Et également par le fait que la première période de conformité au Québec pour les entreprises s'étend sur les années 2013 et 2014, et que la première date à laquelle les entreprises vont devoir se conformer à la réglementation, c'est le 1er novembre 2015. Donc, ça laisse encore un peu plus de 2 ans aux entreprises pour se préparer et faire face à leur obligation de couvrir leurs émissions. Alors, mais ça prend forme. On constate un intérêt croissant de la part des entreprises pour cette question-là. Les entreprises soumises à la réglementation du secteur manufacturier ont déjà reçu, au début mai, des allocations gratuites pour l'année 2013. Et on prévoit qu'à partir de l'automne, les entreprises ont commencé à se questionner sur le meilleur usage de ces droits d'émission qu'elles ont reçus.
Et on pourra échanger avec la Californie bientôt ou...
En fait, à partir de janvier 2014, on prévoit pouvoir échanger. Et le prochain échéancier, comme vous cherchiez à le savoir, est novembre. Il va y avoir la première vente aux enchères au Québec, en novembre. Et à partir de janvier, les ventes aux enchères organisées par les États vont être communes entre le Québec et la Californie, vont avoir lieu en même temps. Et ce qui va être vendu, enfin, il va y avoir une seule vente aux enchères, et on va vendre indistinctement des droits d'émission de la Californie et du Québec.
Bien. Bon, on attend ça avec impatience de voir quels vont être les prix, les acteurs, la dynamique de tout ça. Et puis je crois qu'il y a aussi le plan d'action va être détaillé, parce que pour l'instant, le plan d'action sur les changements climatiques existe, mais dans une version...
assez synthétique.
Voilà. Oui. Et donc il y aura une...
mise à jour qui est prévue pour l'automne.
Bon, donc tout se passe en automne prochain.
Tout se passe en automne, effectivement. On attend ça avec impatience, vous pouvez me croire.
Bon, ben écoute, merci beaucoup, Jean, de nous avoir donné plus de détails sur ce marché carbone. Et puis, peut-être à une prochaine fois.
Ben, c'est un grand plaisir, Bethléem. Merci de l'invitation. Et je serai très ouvert à apporter des compléments d'explication dans le futur.
Bien. Ben, merci beaucoup aussi à Brian pour la mise en onde. Et puis, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour une nouvelle édition de Troisième Planète sur Sekaya. Au revoir.